Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici depuis plusieurs mois maintenant que nous vous proposons de partager avec nous cette œuvre d'une immense richesse qui est celle des lettres des pères du désert, les premiers pères de l'Église, qui vécurent du 3e siècle à nos jours, plus spécialement au Moyen-Orient et en Russie. Aujourd'hui, poursuivons avec Jean Cassien, qui est plus particulièrement orienté sur l'expérience du combat spirituel, celui qui nous permet de quitter le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Nous poursuivons aujourd'hui avec l'état de la prière et de l'attendrissement du cœur. Entre ces larmes versées par le juste, écrasées sous le poids du chagrin du monde, et celles que l'on se tire à grand-peine lorsque le cœur est dur et les yeux obstinément secs, il y a bien la distance. Il ne faudrait pas croire pourtant que celle-ci soit tout à fait infructueuse, car c'est un bon sentiment qui les fait rechercher, par ceux surtout qui n'ont pu parvenir encore à la science parfaite, ni se purifier entièrement de leurs vices passés et présents. Mais pour ceux qui sont arrivés à l'amour de la vertu, qui ne se mettent pas ainsi à la torture, et n'attachent point tant de prix aux larmes de l'homme extérieur, lors même que l'on réussirait tant bien que mal à les faire couler, elles ne peuvent avoir de proportion avec l'effusion spontanée des larmes. Mais bien plutôt, les efforts qu'elles réclament arracheront l'âme à sa prière pour l'abaisser et la plonger en des pensées humaines. Ils la feront déchoir de la hauteur sublime où elle se doit tenir immuablement fixée dans un religieux saisissement. Ils la contraindront de relâcher de l'ardeur de sa prière pour se fatiguer à de pauvres lames stériles et forcées. Afin de vous donner l'impression de ce qu'est la vraie prière, ce n'est pas mon sentiment que je vous dirais, mais celui du bienheureux Antoine, le grand Antoine du désert. Je l'ai vu demeurer si longtemps en oraison que souvent les premières lueurs du soleil le surprenaient dans son extase. Et je l'ai entendu qui s'écriait alors dans la ferveur de son âme « Ô soleil, pourquoi me troubler ? Tu ne te lèves si tôt que pour m'arracher aux clartés de la vraie lumière. » C'est de lui encore qu'est cette parole céleste et plus qu'humaine, sur le degré le plus élevé de la prière. La prière n'est point parfaite, disait-il, où le moine a conscience de soi et connaît qu'il prie. Si l'audace est permise à ma faiblesse d'ajouter quelque chose à cette admirable parole, je dirai ce que l'expérience m'a révélé, des marques auxquelles on reconnaît qu'une prière est exaucée du Seigneur. Si nulle hésitation n'est venue traverser notre prière et que nulle pensée de doute n'en ait brisé le confiant élan, si au contraire nous avons le sentiment intime d'avoir obtenu ce que nous demandions dans l'effusion même de notre prière, celle-ci, n'en doutons pas, a été efficace auprès de Dieu. Car ce qui nous vaut d'être exaucé, d'obtenir satisfaction, c'est la foi au regard de Dieu sur nous et la confiance qu'il a le pouvoir d'accorder ce qu'on lui demande. Notre Seigneur ne peut reprendre sa parole. Tout ce que vous demanderez dans la prière, dit-il, croyez que vous l'obtiendrez et il vous sera donné. Les causes qui nous font exaucer sont diverses comme les âmes et leurs dispositions, témoins l'Évangile et les prophètes. C'en est une que deux âmes soient unies dans leur prière. Le Seigneur lui-même nous l'a marqué. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quoi qu'ils demandent, mon Père qui est aux cieux le leur donnera. Vous en avez d'autres. Dans la plénitude de cette foi qui est comparée au grain de sénevé, si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne, passe de cet endroit à cet autre, et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. Dans l'assiduité de la prière, cette persévérance qui ne se lasse pas de demander, le Seigneur l'appelle importunité. En vérité, je vous le dis, si l'amitié ne le décide, l'importunité du moins le fera lever et donner à son ami tout ce dont il a besoin. Dans le fruit de l'aumône également, dépose ton aumône dans le cœur du pauvre et elle priera pour toi au jour de la tribulation. Aussi dans l'amendement de la vie et les œuvres de miséricorde, selon cette parole. Brisez les chaînes de l'impiété, ôtez les fardeaux qui accablent. Et après quelques mots, où il flagelle la stérilité d'un jeune infructueux, le prophète ajoute « Alors, tu appelleras, et le Seigneur t'exaucera, tu crieras, et il dira « Me voici ». Quelquefois enfin, c'est l'excès de la tribulation qui nous fait exaucer, témoin ses paroles. Dans la détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a exaucé. Et encore, ne maltraitez pas l'étranger, car s'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce que je suis miséricordieux.
Oh,
C'est le Seigneur lui-même qui, dans son désir de nous accorder des biens célestes et éternels, nous exhorte à lui faire violence, en quelque sorte, par notre importunité. « Demandez, dit-il, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, et qui cherche, trouve, et à celui qui frappe, on ouvre. Et encore, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. » Et rien ne vous sera impossible. Si dans notre indigence, nous n'avons à faire valoir aucun des titres indiqués plus haut, qui méritent à la prière d'être exaucés, armons-nous du moins de cette pressante importunité qui, sans exiger ni grand mérite, ni difficile labeur, est à la portée de qui la veut. Mais soyons bien persuadés que notre prière ne sera pas exaucée si nous doutons qu'elle le soit. L'apôtre dit « Par trois fois, je prierai le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et il me répondit « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma force se montre tout entière. » Telle est aussi la pensée que notre Seigneur exprimait dans son humanité, afin de nous donner en cela, comme pour le reste, un modèle à imiter lorsqu'il disait « Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant qu'il en soit, non comme je veux, mais comme vous voulez. » Et pourtant, sa volonté n'était pas différente de celle de son Père, car il était venu sauver ce qui avait péri et donner sa vie pour le rachat d'un grand nombre. De sa vie, il dit lui-même, personne ne me la ravit. C'est de moi-même que je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Sur l'union continuelle de volonté qui régnait entre son Père et lui, le saint roi David lui fait dire au psaume 39 « Je viens pour faire votre volonté. Je le veux, ô mon Dieu. » Nous lisons, il est vrai, au sujet du Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Mais nous trouvons au sujet du Fils cette parole, « Il s'est donné pour nos péchés. » Il est dit du Père, « Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. » Mais il est dit du Fils, « Il s'est offert parce qu'il l'a voulu. » L'union de volonté entre le Père et le Fils est ainsi partout exprimé jusque dans le mystère de la résurrection, où nous voyons qu'ils n'eurent l'un et l'autre qu'une seule et même opération. C'est le Père qui, selon le bienheureux apôtre, a ressuscité le corps de son Fils. Par Dieu le Père, dit-il, qu'il a ressuscité des morts. Mais le Fils proteste aussi qu'il relèvera le temple de son corps. Détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours. » Instruits à l'exemple du Seigneur, nous devons conclure toutes nos prières par un vœu pareil au sien, et ajouter à toutes nos demandes cette parole, « Cependant, qu'il en soit non comme je veux, mais comme vous voulez. » Nous devons mettre un soin tout particulier à suivre le précepte évangélique qui nous commande d'entrer dans notre chambre et d'en fermer la porte pour prier notre Père. Voici comment l'accomplir. Nous prions dans notre chambre lorsque nous retirons entièrement notre cœur du tumulte et du bruit des pensées et des soucis. Et dans une sorte de tête-à-tête secret et de douce intimité, nous découvrons au Seigneur nos désirs. Nous prions la porte close lorsque nous supplions sans ouvrir les lèvres et dans un parfait silence, celui qui ne tient pas compte des paroles, mais regarde au cœur. Nous prions en secret, lorsque nous parlons à Dieu, par le cœur seulement, et l'application de l'âme, et ne manifestons qu'à lui nos demandes, si bien que les puissances adverses elles-mêmes n'en puissent deviner la nature. Telle est bien la raison du profond silence qu'il convient de garder dans la prière. Nous ne devons pas avoir en vue seulement de ne pas distraire les frères qui nous entourent par nos chuchotements et nos cris, et de ne point faire obstacle à leur âme en prière, mais aussi de cacher à nos ennemis, qui multiplient alors surtout leurs attaques, le but de nos demandes. Par là, nous accomplirons le précepte. Tiens ta bouche fermée à celle qui dort sur ton sein. Aussi, nos prières doivent-elles être fréquentes, mais courtes, de peur que si elles se prolongeaient, l'ennemi qui nous guette n'eût la faculté d'y glisser quelques distractions. C'est là le sacrifice véritable. Le sacrifice que Dieu veut, c'est un cœur contrit. C'est là l'oblation salutaire, l'offrande pure, le sacrifice de justice, le sacrifice de louange. Ce sont là les victimes grasses et les holocaustes remplis de moelle, offrande d'un cœur contrit et humilié. Si nous les présentons nous-mêmes à Dieu, selon la méthode et avec la ferveur que nous avons dite, nous pourrons chanter, avec la certitude d'être exaucés. Que ma prière monte comme l'encens devant votre face, et que mes mains s'élèvent comme le sacrifice du soir. C'est le degré de sa pureté, je l'ai dit dans la précédente conférence, qui détermine pour une âme l'éveil et le dessein de sa prière. Elle perd de vue plus ou moins les choses terrestres et matérielles, selon que sa pureté la fait monter plus ou moins. De là vient aussi qu'elle ne voit Jésus que dans l'humilité de sa chair, ou déjà le contemple intérieurement dans sa gloire, et venant parmi l'éclat de sa majesté. Mais ceux-là seuls contemplent d'un regard très pur sa divinité, qui s'élève au-dessus des œuvres et des pensées terre à terre pour se retirer avec lui sur la haute montagne de la solitude, libre du tumulte des pensées et des passions de la terre, éloigné de la mêlée confuse de tous les vices, dans les hauteurs sublimes d'une foi très pure et des plus éminentes vertus, elle révèle la gloire de la face du Christ et la vue de sa splendeur à ceux qui sont dignes de le contempler du pur regard de l'âme. Si nous voulons, nous aussi, prier Dieu d'un cœur pur et vierge, fuyons comme lui la fièvre et la confusion des foules, afin de reproduire dès cette vie quelque image du moins de l'état bienheureux promis aux saints dans l'éternité. Et pour que, pour nous, se réalise la parole de l'apôtre, Dieu tout en tous. C'est alors que nous verrons parfaitement réaliser la prière que notre Sauveur fit à son Père pour ses disciples, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux et eux en nous, afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi et moi en vous, afin qu'eux aussi soient un en nous. La parfaite dilection dont Dieu nous aima le premier passera en notre cœur par l'accomplissement de cette prière du Seigneur dont notre foi nous dit qu'elle ne saurait être vaine. Et voici quels en seront les signes. Dieu sera tout notre amour et notre désir. Toute notre étude et tous nos efforts, toute notre pensée, toute notre vie, une image de la future béatitude. Et d'avoir actuellement du Père avec le Fils et du Fils avec le Père nous sera communiqué dans le sentiment et l'esprit, de même que Dieu nous aime d'une charité vraie et pure et qui ne meurt point. Nous lui serons unis par l'indissoluble unité d'une dilection sans défaillance, tellement attachés à lui que toute notre respiration, toute notre vie d'intelligence, tout notre parler ne seront que lui. Ainsi parviendrons-nous à la fin que nous avons dite et que le Seigneur souhaitait pour nous dans sa prière, afin que tous soient un, comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'un. Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je suis, ils soient avec moi. Tel doit être le but du solitaire. C'est à quoi doit tendre tout son effort, mérité de posséder, dès cette vie, notre parole et notre respiration. L'unité qui existe comme un avant-goût dans son corps mortel de la vie et de la gloire du ciel. Tel est, dis-je, le terme de toute la perfection. Que l'âme soit à ce point délestée des pesanteurs charnelles qu'elle monte chaque jour vers les sublimités des réalités spirituelles jusqu'à ce que toute sa vie, tout le mouvement du cœur devienne une prière unique et ininterrompue. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Ce n'est pas sans raison que ce court verset a été choisi particulièrement de tout le corps des Écritures. Il exprime tous les sentiments dont la nature humaine est susceptible. Il s'adapte heureusement à tous les états et convient en toutes sortes de tentations. On y trouve l'appel à Dieu contre tous les dangers, une humble et pieuse confession, la vigilance d'une âme toujours en éveil et pénétrée d'une crainte continuelle, la considération de notre fragilité. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Il dit aussi la confiance d'être exaucé et l'assurance du secours toujours et partout présent, car celui qui ne cesse d'invoquer son protecteur est bien certain de l'avoir près de soi. C'est la voix de l'amour et de la charité ardente. C'est le cri de l'âme qui a l'œil ouvert sur les pièges à elle tendus, qui tremble en face de ses ennemis et se voyant assiégée par eux nuit et jour, confesse qu'elle ne saurait échapper si son défenseur ne la secourt. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. À notre prochain rendez-vous, nous poursuivrons avec ce verset. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Et nous verrons toute la profondeur de ce texte.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.